R22 tout le monde, antenne Kiasma.
Donc merci d'être là. Je vais juste en quelques mots expliquer un petit peu le principe de la soirée et après on passera à la première partie. Donc lorsqu'il s'est agi de penser à quelque chose comme un lancement de livre, puisqu'il se trouve qu'il y a un livre en jeu dans ces soirées, j'avais pas du tout envie de centrer ce livre autour de la personne qui l'avait écrite, donc moi en l'occurrence, et uniquement autour du livre, puisque justement ce livre qui s'appelle Brouhaha est une enquête assez vaste sur le contemporain, sur les mondes du contemporain, puisque c'est son sous-titre, les mondes du contemporain, et c'est une enquête très... Enfin, si je dis que c'est une enquête très concrète, ceux qui l'ont lu peut-être se diront que ce n'est pas exactement vrai, mais c'est une enquête très inductive en tout cas, qui part de lieux, qui part d'espaces, qui part de rencontres et qui part d'une dimension très collective. Et pendant tout ce projet de recherche qui m'a amené à ce livre, il se trouve que j'ai entretenu des relations proches ou très proches ou plus distantes, plus implicites avec pas mal de personnes. Et j'avais envie de rendre à cette dimension collective sa véritable place au moment du lancement du livre. Donc je ne vais pas refaire le discours que j'ai fait hier parce que j'en ai déjà parlé. Il y a peut-être 3 ou 4 personnes qui étaient là aussi hier à la Maison de la Poésie. Mais j'avais envie que ce que j'essaie de mettre en avant dans cette compréhension du contemporain, notamment une indistinction entre les pratiques, entre le savoir, les pratiques artistiques, entre les différents éléments disciplinaires, soit représentée autour de ces 2 soirées et que je puisse être en dialogue avec celles et ceux avec qui j'ai été en dialogue pendant ces différentes années. Alors, ce n'est pas tout le monde, évidemment, parce qu'il y a bien des personnes avec qui j'ai été en dialogue qui ne sont pas présents, mais j'ai demandé à quelques camarades, à quelques amis, à quelques personnes qui m'ont beaucoup influencé, de participer à ces soirées brouhaha et de nourrir un petit peu ce brouhaha qui a fait le fondement de ce livre. Donc parmi les personnes que je souhaitais vraiment inviter, il y a Alyosha Imov et Kantuta Kiros qui sont les deux âmes, les seules âmes d'ailleurs, du peuple qui manque, collectif curatorial, avec qui le dialogue est entamé depuis quelques années maintenant, mais qui est très fort et je crois qu'il j'ai toujours pensé qu'on faisait presque exactement la même chose, mais dans des domaines un peu différents, presque exactement, pas tout à fait exactement, évidemment. Et quand je leur ai demandé de participer, comme je l'ai fait à tout le monde, je leur avais dit, vous avez carte blanche, qu'est-ce que vous voulez faire? Et ce sont eux qui ont proposé de faire un petit entretien pour commencer cette soirée sur le livre, mais je pense que c'est un entretien qui sera en ping-pong, parce que comme je parle d'eux dans le livre aussi, j'aurai aussi probablement des questions à leur poser, enfin, on verra, et je crois qu'ils finiront, ils le diront, par montrer un film sur lequel ils sont en train de travailler, qui est issu d'un projet qu'ils viennent de mener à Chicago. Voilà. Donc, on y va.
Donc, bonsoir, merci beaucoup à Lionel pour cette invitation. Et puis, comme cette soirée est construite en étoilement, je vais aussi en profiter pour remercier l'École de littérature, David Ruffel et l'Espace Kiasma pour cette invitation. Et vous dire d'abord que je suis très touchée d'être là parce que ça fait longtemps qu'on parle de ce livre avec Lionel, en tout cas depuis plusieurs années, et de le voir surgir, apparaître est quelque chose de très émouvant. Et je suis aussi très touchée de cette manière de construire cette soirée aussi comme une forme de compagnonnage. Tu parles de camaraderie du temps, de compagnonnage du temps, de fraternité du temps dans le livre. En tout cas, je crois que les 2 soirées sont à l'image de cette fraternité-là. Alors, peut-être, on avait envie de déplier quelques fils, en fait, qui tissent le livre. Donc, ce sera assez erratique. Certainement, peut-être, la forme qui est très singulière du livre et qui nous intéresse beaucoup, dont tu as déjà parlé hier soir à la Maison de la Poésie. Cette question de l'enquête, cette manière de construire le livre, sa cartographie, sa spatialisation qui nous intéresse beaucoup, peut-être ça peut être une manière d'entrer dans le livre. Il y a dans ce livre une ambition double, à la fois peut-être une ambition qui pourrait être au départ définitoire, ou en tout cas qui aurait une dimension peut-être de totalisation. une volonté de cet ordre. Et puis, une attention très grande, un souci très grand à la localisation du contemporain. Et cette attention, elle est traduite par une mise en scène particulière du savoir. Donc, tu travailles à partir de chronotopes particuliers. Donc, on pourrait les citer, en citer quelques-uns, Rosario, Rouen, Hong Kong... Et c'est une manière aussi de ne pas surplomber ces différents espaces et de voir comment s'accroche en fait ce contemporain à une localité particulière. Et cet enjeu-là nous intéresse beaucoup. On pourra aussi voir ce qu'on peut aussi essayer de travailler, nous, à l'occasion d'un fragment de film qu'on va vous montrer tout à l'heure. Et c'est un fragment d'un film en cours. Donc voilà, on est dans un moment ici qui est peut-être un peu familial, on va dire. Donc on a pris le risque de vous montrer un... Voilà. On pensait que ce serait assez intime et qu'on pourrait se mettre un peu à nu devant vous, vous montrer quelque chose qui est vraiment embryonnaire, puisque c'est un montage d'un film en cours qu'on vient de commencer à tourner. Voilà, peut-être que tu voulais aussi...
Je vais poser 3 questions à Lionel. Je prends ton micro parce que celui-ci n'est pas un peu faible. Mais tout de suite, pour rentrer dans le vif du sujet, j'avais envie de commencer cette soirée en te posant 3 questions un peu précises. Déjà d'un sort de compte-rendu, disons, de la lecture qu'on a pu faire de ton livre, qui, comme le disait Kenduta, donc, tente d'échapper toujours à définir le contemporain, et quand bien même il tente d'échapper, évidemment, le fait à plusieurs reprises dans le livre. Et j'aimerais donc commencer par cette citation, et, dans laquelle tu définis, ou tu commences à définir le contemporain lui-même. Et donc tu dis, j'ouvre les guillemets, « Le mot contemporain saisit le problème de l'identité historique » exactement là où il se pose, dans l'imaginaire du temps. Il impose un imaginaire de la cofraternité, de la coexistence, mais en plus, il renoue avec les autres imaginaires non modernes. Donc jusque-là, on signe tous, je crois, on est tous complètement d'accord. Enfin, génial, on se dit, on signe, ça vient renouer avec les imaginaires non modernes.
Mais jusque-là, juste.
Voilà, jusque-là, virgule, tout en n'effaçant pas le diktat moderne qu'il porte en lui, et qui donc impose, en quelque sorte, en un sens, un ordre moderne du temps. Et donc là, je note qu'il y a, j'ai l'impression, un rapprochement très net avec cette définition du postmodernisme qui est celle de Latour, que tu recites dans le livre, que je n'ai pas sous les yeux, mais qui, grosso modo, dit bon, le postmodernisme, de son point de vue, quand il écrit « Nous n'avons jamais été modernes » en 89, dit « Le postmodernisme vient éclater, disons, la modernité, mais tout en conservant le cadre épistémologique. » Donc c'était peut-être déjà ma première question. Dans quelle mesure, disons, le contemporain que tu définis se différencie du postmodernisme de Latour, et quel est ce diktat dont tu parles? Est-ce que c'est un diktat qui est celui de la dark side, de la modernité, disons, pour le dire à grands traits, qui est celui de Mignolo? En gros, colonialisme égale... modernité égale colonialisme, etc., etc. Et donc, tu précises un peu plus loin, donc ça, c'était la première question, je vais les donner les 3 d'un coup, et tu prendras celle que tu veux. Et donc, un peu plus loin dans le livre, tu précises en disant le contemporain, c'est... Il y a 2 imaginaires du temps qui se différencient. Donc, l'un qui est sous la forme de la flèche, et l'autre sous celle des mélanges. Le premier est moderne, le second, selon Latour, justement, est pré-moderne. J'ajoute, c'est toi qui ajoute, hein, et d'une certaine manière, c'est la thèse de ce livre, hein, qu'il est aussi contemporain. Il ne s'agit pas en aucun cas de dire que le contemporain est le retour au pré-moderne, il s'agit de comprendre le contemporain comme la levée, la suspension de la représentation du temps comme flèche. Il renoue avec ce qu'est le temps, hétérogène, mélangé, que ce soit sur le plan des subjectivités ou des collectivités. En cela, il est bien, selon l'expression de Latour, non moderne ou amoderne, et non post-moderne, car le préfixe post ne renonce pas à l'imaginaire de la flèche. Et donc là encore, je me pose une seconde question, disons encore une fois définitoire par rapport au concept contemporain que tu poses, qui est, tel que je lis ce passage-là, je le comprends comme étant le contemporain étant le postmoderne, plus postmoderne que le postmoderne lui-même. C'est-à-dire finalement, c'est le postmoderne achevé qui vient parachever le projet postmoderne lui-même, donc celui de Lyotard d'ailleurs plutôt que celui de Jameson, et qui vient parachever donc ce brouhaha dont tu parles, et que finalement tu revendiques, ou en tout cas j'ai l'impression que tu y vois quelque chose de positif à la fin du livre. Et donc, voilà, est-ce que c'est le postmoderne qui reconduit cette flèche du temps, qu'on ne retrouve pas dans le contemporain, est-ce que, finalement, c'est ça que tu veux dire? Troisième question, enfin. Pardon, j'espère ne pas embêter tout le monde avec mes questions. En plus, avec mes questions sont celles de quelqu'un avec beaucoup de fièvre ce soir. Donc, voilà. Et troisième question que j'aimerais te poser, c'est finalement, à partir de cette notion de contemporain que tu poses, comment penser l'avenir à partir du contemporain? Et j'aimerais m'expliquer expliquer en quelque sorte ma question, puisqu'il me semble que précisément, s'il y a bien un imaginaire du temps qui nous rapproche, en tout cas, ce serait, je pense, notre point de vue, il ne se résume pas justement précisément qu'au présentisme de Hartog, ni au spectre de la modernité, voilà, de Derrida, enfin, plein de gens, quoi. C'est-à-dire que, ou de Latour même, voilà. Mais c'est-à-dire que la question que j'aimerais te poser, c'est précisément, est-ce qu'on peut se contenter de ce brouhaha, ou est-ce que précisément, et c'est la question que je pose, est-ce que le contemporain que tu définis peut nous permettre d'échapper à ce double bind, quoi, disons, qui est celui, de notre point de vue, du temps que nous vivons en ce moment, c'est-à-dire qui est à la fois le présentisme, caractérisé donc, pour l'historien français François Hartog, comme étant une sorte de collage schizophrénique du passé et du futur dans un présent étendu, doublé d'une saturation mémorielle, hein, enfin, ça, voilà, qui différencie donc, à son tour de la notion d'histoire, à la suite de Pierre Nora, etc., entre mémoire et histoire, et auquel il faudrait peut-être ajouter aussi une forme de sentiment d'accélération sociale qu'on retrouve chez Armut Rosa, etc., c'est-à-dire toujours le sentiment d'accélérer en permanence pour faire du surplace. Voilà, et voilà, donc ça c'est la question, c'est la troisième question, comment penser l'avenir à partir du contemporain?
Alors, je vais pas commencer par la dernière, parce que justement, je me suis jamais posé la question de l'avenir. Je ne me suis jamais posé cette question de l'avenir. En revanche, sur ce que tu dis au départ, il s'agissait au fond, de manière très simple, quand on commence une enquête sur le contemporain, on va réfléchir sur le contemporain, comme je le disais d'ailleurs hier, au départ, moi, je voulais dire, bon, voilà, le contemporain, c'est ça, point barre, et n'en parlons plus. Bon, il se trouve que ça ne s'est pas passé comme ça. Il se trouve que la première question, quand on vient des études littéraires, mais ça pourrait être l'histoire de l'art ou n'importe quel autre champ disciplinaire, c'est pourquoi un mot qui a été aussi important que le mot moderne, modernité, modernisme, tout ça n'étant pas exactement équivalent, mais construit sur la même base lexicale et avec des univers théoriques relativement proches, pourquoi ce mot qui a marqué véritablement les représentations culturelles et dans lequel qu'on s'y oppose ou qu'on le reprenne a été aussi déterminant, tout d'un coup perd de son usage. Et pourquoi un autre terme s'installe progressivement dans le même champ, et voilà, cet autre terme, c'est le mot contemporain. Donc probablement, il se trouve que c'était dans cette sensation de ne plus se sentir exactement moderne que cette sensation d'être contemporain pouvait trouver une réponse. Sur la question du diktat moderne, c'est une citation de Latour, hein. C'est, je crois, entre guillemets, en tout cas j'espère que c'est entre guillemets dans le livre, c'est une citation de Latour, c'est-à-dire l'idée selon laquelle le temps est représenté sous la forme de la flèche, avec une succession de passé, de présent, de futur, d'époques, de séquences qui se déterminent de manière linéaire, sans retour en arrière possible. Or, cette représentation moderne du temps, qui est une représentation, c'est-à-dire le temps n'existe pas vraiment en soi, le temps est portée par une pensée du temps, cette représentation, elle est aussi très liée à un univers géographique, l'Europe et le monde occidental, et à une certaine forme d'organisation de la communauté politique et de la communauté sociale. Or, peut-être ce que nous voyons dans le monde que nous traversons aujourd'hui, c'est la multiplicité des mondes qui nous entourent. À la fois une multiplicité des mondes, mais une multiplicité des représentations de notre propre inscription historique. Et de fait, cette représentation de nos inscriptions historiques, tu as parlé du postcolonial tout à l'heure, qui est une de ces représentations, tout d'un coup nous apparaissent plus comme en coexistence, avec quand même des formes d'hégémonie, hein, le modèle occidental est loin de ne plus être hégémonique, avec des formes d'hégémonie, mais avec des concurrences très fortes de ce que être au présent veut dire. Être au présent veut dire. Là où je suis Latour dans cette introduction, puisque les passages que tu as lus sont issus de l'introduction, c'est qu'il me semble que peut-être contemporain veut beaucoup plus dire co-temporel, dans le sens que des temporalités, c'est-à-dire des pensées du temps et des pensées de l'histoire, coexistent sans qu'on puisse dire, par la remise en cause du progrès, par exemple, sans qu'on puisse dire « non, mais c'est moi qui ai raison, vous avez tous tort, c'est ma représentation ». Non, on a quand même beaucoup plus l'impression que nous accueillons des représentations du temps et de l'histoire qui coexistent pas forcément pacifiquement, hein, qui coexistent dans des formes de dissensus très forts. Et il m'a semblé que c'était le sens du mot contemporain, hein, qui était beaucoup plus hein, co-temporel. Hein, co-temporel. Or, c'est aussi tout à fait lié aux subjectivités contemporaines, disons, où la sensation d'appartenir à plusieurs temporalités, plusieurs histoires, plusieurs formes de subjectivité est peut-être plus cruciale ou plus intense aujourd'hui qu'elle ne l'a été précédemment. Ça ne veut pas dire qu'elle ne l'était pas précédemment, comme je le dis sans me citer de tête, probablement imparfaitement. Quand on était, je ne sais pas, bourguignon marchand au XVIIe siècle, c'était déjà plusieurs formes d'inscription historique dans le temps. Sauf que l'homogénéité sociale, l'homogénéité du monde étant plus importante qu'elle ne l'est aujourd'hui, face à cette hétérogénéité, il m'a semblé que c'était une grille d'interprétation de ce que contemporain pouvait dire. Pourquoi s'était imposé un autre terme pour dire notre rapport au temps ? D'où cette phrase que tu cites dès le départ, le problème se pose exactement là où il est le plus crucial à mon avis, c'est-à-dire dans l'imaginaire du temps. Et le temps est toujours porté par un imaginaire. Sur la question du postmoderne, le postmoderne, dans sa construction sémantique est profondément inscrite dans la logique de la flèche. C'est-à-dire, post, c'est être après. C'est vraiment ne pas quitter cette représentation moderne du temps selon laquelle le temps avance sans jamais revenir sur soi et on peut avoir un après quelque chose. Donc, c'est toujours la suite des après, des avant, de la suite des après, des avant. Simplement, quand je dis ça n'efface pas le diktat moderne, ça ne veut pas dire que tout d'un coup, ah ouais, on n'est plus moderne. On était moderne, on n'est plus moderne. Non, pas du tout. Nous sommes dans le même temps, probablement, moderne, archaïque, postmoderne, contemporain, et que sais-je encore. Des parties de nos subjectivités forment, ou notre subjectivité forme ce tout. En ce sens-là, il me semble que, véritablement, le postmoderne n'est pas ni le bon terme, ni le bon outil herméneutique pour penser notre rapport au temps. Sur la question de l'avenir, je sais que c'est presque à vous que je devrais renvoyer cette question, parce que dans tout le livre, je pose l'idée que le seul point d'observation, c'est le présent. Et ce n'est pas le présentisme. C'est-à-dire que le présentisme de Hartog, c'est l'idée qu'on est dans un présent étendu qui a effacé toute stratification historique. Au profit, il utilise l'image de la mer limpide, sans clapot, je crois. Au contraire, dans la dernière partie du livre, je travaille plutôt sur les formes de temps archéologique, c'est-à-dire le présent qui me semble ce poste d'observation de l'histoire, c'est un présent archéologique, en ce sens que, par exemple, dans les fouilles archéologiques, bien sûr, on accède au passé. Mais c'est un passé qui a été métabolisé par toute l'histoire. Donc, ça, en fait, les objets que les archéologues trouvent dans des fouilles, c'est des objets du présent, dont on restitue une histoire, mais c'est une histoire qui a été métabolisée par le passé. Ça me semble une bonne analogie pour penser notre rapport au temps et au présent. Voilà. Donc, je crois que et j'ai eu cette discussion sans outer cette discussion et sans d'ailleurs le faire avec immodestie. J'ai eu cette discussion avec François Hartog lui-même à propos du livre qui m'a dit « Je vois très bien pourquoi votre contemporanéisme se distingue du présentisme ». Donc je crois qu'il n'y avait pas d'ambiguïté entre nous, en tout cas, à ce propos.
Mais, ouais. Alors, mais justement, j'ai l'impression... Alors, il y avait ma question qui était portée, disons, sur... d'ailleurs, qui est une partie importante du livre, en fait, qui est cette question de la controverse, non ? Enfin, et c'est d'ailleurs un de tes points de départ, en fait, que tu as rappelé hier en disant que ton enquête sur le contemporain t'a mené à beaucoup de contradictions. Et la question que je me pose, disons, dans les dernières pages de ton livre, au sujet de finalement d'un certain plaisir, à une certaine façon d'accepter, disons, ce brouhaha dans lequel nous sommes, j'ai tout de même une interrogation, enfin, par rapport à la façon dont les controverses donnent lieu ou non à une délibération. Et pour faire un peu référence à la performance que nous avons vue hier, et à Yves Citon qui est à quelques rangs d'ici, on ne peut pas être à la fois pour et contre les OGM, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, et c'est d'ailleurs, je crois, dans le dernier passage du livre de Yves Citon, qui est absolument remarquable, qui s'appelle pour une interprétation littéraire des controverses scientifiques, donc, dans lequel Yves prône une multiplication des modèles interprétatifs face aux controverses scientifiques. Il se pose lui-même la question à la fin de son livre, qui est comment faire pour à quel moment doit-on délibérer, parce qu'à un moment donné on est obligé, on est face au mur en quelque sorte, on est obligé de prendre une décision qui relève du coup de la politique. Et c'est là où je crois où en tout cas de notre point de vue on serait relativement insatisfait face à ce brouhaha, car en quelque sorte s'il s'agit de combattre ce que Buenaventura de Sousa Santos par exemple appelle un épistémicide de la modernité, c'est-à-dire vraiment une sorte de génocide des épistémologies, quand il s'agit disons de multiplier les rapports au monde, etc., on est tous d'accord avec cette idée qu'il faut pouvoir multiplier. Mais d'une part j'ai l'impression qu'il y a tout de même un écueil qui est celui de voilà, celui qu'on retrouve chez Lyotard, quoi. C'est-à-dire que du coup, on se perd dans des micro-jeux narratifs, et il est difficile, de plus en plus difficile de retrouver un projet politique. Il me semble, enfin, en tout cas, c'est une question. Et donc, je vais de cette manière-là également introduire, disons, ce qu'on aimerait vous montrer dans quelques minutes, qui est donc un travail en cours très embryonnaire encore qu'on a commencé à Chicago. Dans le cadre d'une résidence, et dans lequel justement on a, avant de dire quelques mots sur le film, au moment où nous avons été invités là-bas, il nous a semblé intéressant de revenir, puisque c'est dans le Midwest, etc., sur un mouvement culturel qui est très important là-bas, qui s'appelle l'afrofuturisme. Alors on en a quelques échos ici, certains artistes travaillent sur l'afrofuturisme. En France, je pense à Kaponik Uwanga, et là-bas c'est assez massif. Enfin, il y a vraiment énormément d'artistes noirs américains qui travaillent sur l'afrofuturisme et ce qu'on pourrait qualifier plutôt d'une seconde vague de l'afrofuturisme, puisque historiquement on pourrait dater cette première vague de l'afrofuturisme plutôt autour de musiciens comme Sun Ra par exemple, avec tout son imaginaire de conquête spatiale, etc. Il disait toujours je suis né sur Saturne, etc. Et qu'on retrouve évidemment beaucoup en Afrique avec le projet panafricaniste, donc ces fameuses United States of Africa, enfin voilà, et dans le même temps cet imaginaire autour de la conquête spatiale africaine qui parfois est très très amusante aussi dans la mesure où elle est évidemment bornée à une sorte d'impossibilité. Et il me semble que cette notion d'afrofuturisme a répondu précisément à aussi une sorte de double bind qui est ce moment où d'un côté depuis l'Afrique il est nécessaire de montrer qu'on est précisément du même temps, c'est-à-dire que, et c'est comme ça évidemment qu'il y a ce livre fameux de Johannes Fabien qui s'appelle « Comment l'anthropologie construit son objet » et qui montre combien l'anthropologie est dans un déni de co-temporalité. Donc, et on le retrouve évidemment aussi je sais pas, dans le discours de Sarkozy de 2007 sur l'Afrique, enfin, l'histoire, l'Afrique n'est jamais rentrée suffisamment dans l'histoire, etc. Donc il y a une nécessité d'un côté de dire « oui, nous sommes dans le même temps, nous ne sommes pas dans un temps d'avant », et de l'autre côté, une façon de résister précisément à cette mondialisation de la temporalité, cet imaginaire de la simultanéité globale qui serait que nous sommes tous dans le même temps, cette co-temporalité pour le coup, ce contemporain pour le coup. Voilà. Et du coup, il me semble que l'afrofuturisme, en posant l'avenir comme étant un site pour l'agir historique, a été une réponse formidable à ce double bind, quoi. C'est-à-dire à la fois ce déni de co-temporalité issue de l'anthropologie, la politique, etc., etc., et de l'autre, une façon de résister, donc du coup avec un discours situé, afro, à cet imaginaire, disons, de la simultanéité globale. Et voilà, et donc du coup, il me semble que, je me pose la question, est-ce que le contemporain que tu définis pourrait être une ressource pour répondre à ce double bind que je définissais juste avant, qui est donc entre présentisme et spectre de la modernité. C'est un peu la question qu'on essaye de poser. Je ne sais pas si c'était très clair, mais...
Alors, je vais répondre oui. Tu ne l'as pas vu en lisant le livre, que c'était une réponse. Mince. Non, mais je pense que... il y a tout un travail sur la simultanéité dans le livre. Hein. Il y a tout un travail sur la simultanéité. Mais la simultanéité, ce n'est pas du tout un donné en soi. non historique d'ailleurs. La simultanéité est construite historiquement, il y a des formes de simultanéité différentes, et la simultanéité ne veut pas dire aplanissement des temps, grand respect, grand accueil, etc. Même si vraiment dans le livre, il y a eu une volonté, dans le principe de l'écriture, de l'accueil. L'accueil très, très fort de l'accueil, mais cet accueil, ce n'est pas juste un accueil, venez tous et on... C'est cool, vous parlez, nous parlons, et je vous aime, et vous, peut-être vous m'aimez. C'était aussi un accueil qui essayait de montrer des différences, des distinctions très nettes, et parfois des points de dissension très forts. Par exemple, sur cette simultanéité, je dis dans la deuxième partie du livre que la notion de simultanéité définit des formes de communauté depuis... au fond, ça définit des formes de communauté. Être... se sentir appartenir à une communauté, c'est avant tout se sentir appartenir à un même temps. Parfois, parce qu'on appartient à un même espace. Les formes anciennes de regroupement, les villages, etc., produisaient cette simultanéité uniquement par le contact physique. Mais depuis bien longtemps, cette simultanéité, elle est fortement médiatisée, et elle est médiatisée par différents médiums, dont le livre et la presse étaient les plus grands médiums de sensations de simultanéité, mais qui ont été depuis remplacés par des formes de simultanéité qui sont parfois oppositionnelles. C'est-à-dire que, en ce sens-là, la simultanéité du contemporain, si on peut le dire ainsi, c'est une simultanéité feuilletée. C'est-à-dire que nous appartenons de fait à plusieurs communautés, à plusieurs publics, même c'est pour ça que j'utilise plus la forme du public que la forme de la communauté, en même temps, et ces différentes appartenances produisent par ailleurs des formes polémiques. Donc, ce n'est pas du tout une simultanéité plate, là encore, pas du tout présentiste. Et ça, par exemple, à Padoura, il le montre très bien quand il parle de comment les communautés diasporiques se constituent grâce à un outillage technologique comme les enregistrements audio et vidéo. C'est-à-dire, à partir du moment où le présent n'est plus le présent diffusé par les formes nationales, télévision, radio, etc., qui se sont construites et qui produisent un imaginaire national, des imaginaires diasporiques peuvent se mettre en place parce que, tout à coup, on peut rejouer le présent et recréer de la simultanéité. C'est-à-dire qu'on est aussi acteur de la simultanéité. Il se trouve que là, le feuilleté temporel est tel aujourd'hui, avec nos appareils sur nous qui nous renvoient à d'autres temps, etc., qu'on a... J'ai essayé de le lier justement à cet imaginaire globalisé qui est un imaginaire profondément conflictuel par ailleurs. Sur la question de l'afrofuturisme, bon, moi je suis très heureux de vous lire sur ça puisque c'est votre objet et je trouve ça passionnant ce que tu dis par ailleurs. C'était pas mon objet ni l'afrofuturisme ni d'ailleurs la délibération sur le futur, et je vois bien comment ça peut être une option qui n'est pas du tout celle que j'ai choisie là-dedans. Et par ailleurs, ce concept de brouhaha qui semble te gêner dans ta question. Et c'est peut-être... Là, j'apporterai une réponse quasi littéraire à ce que tu disais, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait avec tout ça ? La question qui s'est posée, c'est une question... Parce que c'est mon métier, d'organiser du sens, de faire un livre, en l'occurrence, mais ça pourrait être autre chose. C'était une réponse... poétique au sens ancien du mot poétique, hein, c'est-à-dire de comment on organise du sens dans le brouhaha du monde. C'est déjà une réponse. Distinguer des mots clés comme des grands concepts transversaux qui sont déterminés pour moi comme des concepts qui travaillent le temps présent est une manière d'y répondre. Elle n'est pas délibérative, elle n'est pas prescriptive, ça c'est clair.